Bonsoir à tous et bonsoir Jean-Michel et bienvenue pour ce podcast intitulé Reinventing Global Health. Le premier épisode avec le docteur Alain Fima portait sur What is wrong with global health in 2022? What are the solutions? Et le deuxième avec le docteur Michael Zema portait sur Healthcare Systems and Global Health, the US example. Et les deux sont disponibles enregistrés, disponibles en anglais sur InVivox. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Jean-Michel Lichtenberger, qui, après avoir pratiqué la médecine en contexte tropical en Afrique essentiellement, a créé en 1983 la société Service Médical International, qui eut pour vocation de répondre à la problématique médicale et financière des entreprises opérant dans les régions insuffisamment médicalisée du globe. Elle œuvra principalement en Afrique, mais également au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Depuis 1990, il est le vice-président de la Société de médecine des voyages. Et en 1999, il co-crée le Collège international du voyage, une association de réflexion transversale pluridisciplinaire sur le voyage. Depuis 2001, il enseigne dans le DIU de médecine des voyages à Paris-Sorbonne. En 2011, il vend ses sociétés au groupe international SOS. Et en 2012, il crée l'association Voyage et Santé, centre de vaccination internationale Air France par AVS, et c'est le redémarrage de ce centre. En 2018, il crée le Centre médical international, intégrant le Centre de vaccination internationale, accueillant quelques 90 000 patients, réalisant plus de 100 000 vaccinations internationales par an. Et c'est ceci jusqu'à ce jour. Pour ma part, je connais le docteur Lichtenberger depuis les années 80, quand j'étais assistant en santé publique à l'Université Pierre et Marie Curie et attaché des hôpitaux de Paris dans le service de médecine tropicale du professeur Marc Gentileni à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'ai collaboré avec Jean-Michel, notamment en faisant des remplacements comme médecin généraliste pour des entreprises, deux fois au Nigeria et deux fois en Chine. Et nous avions aussi fait une mission commune en Angola. Après tout ce contexte, la parole est à toi, Jean-Michel, pour ton intervention sur check-up médicaux à titre préventif et universel en trois modules.
Merci Yann pour cette présentation. Donc effectivement, je connais le docteur Meunier depuis les années 80. Nous avons pas mal collaboré ensemble. Aujourd'hui, donc, je vais juste corriger deux tout petits points. J'ai été vice-président de la Société de médecine des voyages, mais je ne le suis plus. Je suis resté pendant 8 ans, mais je ne le suis plus. Et le deuxième, donc, c'est pour le Centre de vaccination internationale Air France, qui est internationalement connu, hein, qui est le plus gros centre français et depuis longtemps, et dont la compagnie a souhaité se séparer. C'était un centre qui marchait très bien, c'était le premier centre français, hein, avec celui de l'hôpital Pasteur, et que nous avons donc la compagnie ayant souhaité s'en séparer, nous l'avons repris en 2012 sous forme associative, et c'est pour ça que donc on a créé l'association Voyage et Santé, et donc ce centre est toujours largement vivant, il s'est développé, il marche bien. Nous l'avons déménagé, pour ceux qui connaissent, de la proximité des Invalides où il était, à la proximité de la place de la République, mais juste au nord. Et comme le projet était de faire de la médecine des voyages et de la médecine préventive, nous allons en parler plus largement. Nous avons doublé la surface et intégré une vingtaine de médecins, une douzaine de spécialités différentes pour nous aider dans la réponse aux problématiques de santé des voyageurs. Donc, le creuset de mon expérience dans ce domaine, c'est donc la prévention. La prévention pour les voyageurs à travers les centres de vaccination internationale est finalement limitée à la prévention des maladies infectieuses par la vaccination, ce qui est très bien parce qu'en effet, les infections sont un des risques principaux dans les voyages où il y a des infections qu'on va qualifier de, entre guillemets, exotiques. Mais bien entendu, ce n'est pas tout. Et la problématique de santé des voyageurs ne se limite pas aux infections, puisque les voyageurs vont évidemment s'exposer au chaud, au froid, monter en altitude, plonger, aller dans des cultures et des environnements différents, et qu'il est important de les conseiller aussi sur ces volets-là. Partant de ce concept donc préventif pour les voyageurs, on a souhaité en fait élargir notre regard sur la prévention, et c'est pour cette raison-là que Yann m'a demandé de vous parler, de vous présenter aujourd'hui ce qu'on faisait en matière de prévention. Je vais le détailler au cours de ce petit podcast. D'abord, donc, comme Yann l'a dit, donc effectivement, mon point de départ, c'est l'expérience que nous avons auprès du grand public, mais également auprès des entreprises, puisque nous proposons beaucoup d'actions de prévention dans les entreprises. Mais avant de détailler ce que nous faisons, je voudrais quand même commencer par un petit détour sur la définition de la prévention. En gros, savoir un peu de quoi on parle. Bien sûr, toutes les langues ont un mot pour dire que prévenir vaut mieux que guérir. Prevention is better than cure. Enfin, donc, on sait tous que la prévention est importante, et pourtant, il y a très peu de choses qui sont faites, vous le savez. Et donc, ça reste néanmoins un territoire très négligé. Dans notre système français d'assurance sociale, d'ailleurs, la prévention n'est pas prise en charge. C'est-à-dire que comme les médecins ont des actions de prévention, et c'est le cas notamment pour la prévention des maladies chez le voyageur, et bien, c'est pas remboursé par l'assurance maladie. Et donc, toutes les actions de prévention, quand elles sont en tant que telles définies comme des actions de prévention, ne sont pas ouvertes à remboursement. Donc, c'est-à-dire que notre système d'assurance maladie n'assure que la maladie, mais pas avant la maladie. La prévention, tout le monde le connaît, je le rappelle, se découpe en gros, et c'est une classification de l'OMS, en trois parties. La prévention primaire, qui, on va dire, est une action recouvre les actions de santé publique. La prévention primaire, ce sont les campagnes de lutte contre le tabac, ce sont les campagnes pour dire marcher 10 000, faites 10 000 pas par jour, c'est les campagnes pour dire ne fumez plus, les campagnes de anti-tabac, les campagnes pour dire manger 7 fruits et légumes par jour, etc. Donc, c'est des actions avant toute maladie, avant toute détection de risque, et qui sont très génériques. La prévention secondaire est destinée à dépister des facteurs de risque sur lesquels on peut agir et qu'on peut mitiger d'une manière ou d'une autre. Quand on les met au jour, facteurs de risque, le plus simple dans les facteurs de risque invisibles comme l'hypertension, qui est évidemment un facteur de risque important dans les risques cardiovasculaires, eh bien, révéler une hypertension et la traiter, ça fait partie des actions de la prévention secondaire. Ça peut être aussi une prévention de l'évolution d'une maladie dépistée à un stade très précoce, quand on va dépister un diabète, par exemple, et qu'on va s'occuper d'éviter qu'il ne se complique et qu'il n'évolue. On est encore dans la prévention secondaire. La prévention tertiaire, elle, c'est quand la maladie est déclarée, et que sur une maladie déclarée, on veut éviter les complications et les rechutes de cette maladie. Contextualisons maintenant sur l'environnement dans lequel on est au niveau de la médecine. Donc, on parle beaucoup de la médecine 4P, les 4P étant médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative. Et on s'inscrit, tout notre travail en matière de prévention s'inscrit pleinement dans ces quatre termes d'un bout à l'autre, et je vais le détailler un peu. Avant de continuer, je voudrais quand même revenir un peu sur l'évolution du rapport de la médecine aux patients. Pour lequel on a profondément, je pense, changé de paradigme. Quand je dis changer de paradigme, je devrais plutôt dire on est en train de changer de paradigme. Je m'explique. Jusqu'à présent, la médecine était ce qu'on peut appeler une médecine réactive, c'est-à-dire que en gros, on ne se souciait pas vraiment de sa santé. Et puis, quand on était malade, on venait déposer sa maladie chez le docteur. On lui disait, vous ne voulez pas me guérir ça et me donner ce qu'il faut pour m'en débarrasser. Le docteur disait, je vous fais une ordonnance, vous prescrivez, vous allez faire ci, vous allez faire ça, prendre ci, prendre ça. Et on en ressortait, guéri ou pas, mais en tout cas, on laissait. Un peu comme on amène sa voiture chez le garagiste. et puis on la fait réparer, on la reprend et on s'occupe plus d'autre chose. Cette manière de faire est en train de profondément changer, et on est en train beaucoup plus de passer à une médecine proactive. Je veux dire par là que de plus en plus, ce qu'on appelle les patients, dont le terme d'ailleurs est bien un évocateur de ce que ça représente, c'est-à-dire en gros c'est un patient qui attend juste qu'on s'occupe de lui, quoi, il est patient. Les patients deviennent de plus en plus en fait des citoyens, acteurs de leur santé. C'est-à-dire que l'évolution, et aux États-Unis c'est tout particulièrement frappant, l'évolution se fait vraiment par vers une prise en charge de la santé par les personnes accompagnées par les soignants. C'est-à-dire que ce ne sont plus les médecins qui vont soigner des maladies, mais ce sont vraiment des citoyens qui vont se préoccuper de leur santé, avoir un projet de santé pour eux-mêmes. Et ce projet de santé, il est tout au long de la vie, de ne pas tomber malade, que la maladie ne s'aggrave pas quand elle est dépistée, et d'essayer de bien vieillir. Et ça, c'est vraiment une évolution fondamentale dans laquelle, vous l'aurez compris, la prévention prend toute sa place. Parce que si on veut être acteur de sa santé, la première chose à faire, c'est évidemment d'éviter qu'elle se dégrade, et donc de travailler à éviter qu'elle se dégrade dans quelque chose qu'on va définir comme un projet personnel de santé. Et donc, là où auparavant on parle toujours d'ailleurs de parcours de soins, je préfère maintenant parler de parcours de santé. Et le parcours de santé, donc, étant toute l'évolution de la prise en considération de son état de santé, même quand il est apparemment sans aucun souci, sans aucun problème, pour s'assurer qu'il est maintenu au mieux et qu'en tout cas, quand il se dégrade, on sache le savoir le plus tôt possible et éviter les conséquences fâcheuses. Dans un parcours de santé, pour savoir un peu où on en est, la première marche, c'est évident de faire un bilan. C'est-à-dire de voir c'est quoi mon état de santé, où est-ce que j'en suis sur les différentes composantes de ma santé. Alors je fais une petite parenthèse pour rappeler quand même que dans les déterminants de la santé, ce dont on parle finalement a une part minoritaire, mais enfin c'est celle qui est notre sujet, puisqu'en gros tout ce qui est médical intervient, c'est notoire, pour moins de la moitié dans les déterminants de santé. Beaucoup plus importants sont la position sociale, la position économique, l'environnement, la pollution, les antécédents, la génétique, qui sont des déterminants qui, additionnés bout à bout, finalement, sont finalement plus importants que ce qu'on peut faire. Mais bon, en même temps, sur la génétique, on ne va pas pouvoir agir, en tout cas pour l'instant, il n'y a rien à faire. Sur les antécédents, on ne va pas pouvoir agir non plus. Sur la pollution et l'environnement, on peut essayer, mais c'est un autre sujet. Donc, il faut quand même essayer d'agir là où on peut, et là où on peut, c'est dans le domaine médical. Notre position est de dire, très simplement, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est-à-dire que quand on veut avoir une action de prévention, il faut qu'on s'adresse à des gens qui sont intéressés à avoir cette action de prévention. Je disais donc tout à l'heure qu'on s'adressait à des citoyens devenus acteurs de leur santé, mais ces citoyens, ils ne sont pas tous intéressés à s'occuper de leur santé. Et quand ils sont intéressés, ils ne sont pas forcément intéressés à s'occuper de tous les sujets. Je prends l'exemple d'un fumeur obèse, par exemple. Il n'a pas forcément envie d'arrêter de fumer, il n'a pas forcément envie de faire un régime, mais bon, comme il a peut-être des petits boutons, il a peut-être envie quand même qu'on regarde s'il n'y a pas un risque de mélanome et s'il n'y a pas un petit quelque chose sur lequel il pourrait prévenir des complications. Je veux dire par là que quand on va aborder quelqu'un avec une proposition d'action de prévention, on va commencer par l'interroger sur l'intérêt qu'il porte à différents sujets concernant sa santé, des sujets généraux ou des sujets particuliers. Ça peut être son stress, ça peut être ses yeux, ça peut être son foie, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais ça nous permet de cibler précisément ce sur quoi on va pouvoir agir de manière efficace. Parce que si quelqu'un est préoccupé, prenons par son poids par exemple, et qu'effectivement il a envie de travailler là-dessus, et c'est ça qu'on met en, c'est ça qu'on va travailler en premier. On va donc faire des actions de prévention sur son surpoids plus ou moins important et proposer des actions là-dessus. Et puis si à côté de ça, il fume, il combine mal ou tout ce qu'on veut, ben on s'en occupera pas parce que c'est pas des choses qu'il a envie de travailler à ce moment-là. Et donc c'est une manière de dire qu'on va essayer avec cette personne de travailler, de négocier, si je puis dire, un programme d'amélioration de sa santé, ciblant ce qui l'intéresse, ce qui le motive et ce qu'on a dépisté comme étant des sujets qui le concernent et qui donc vont être pertinents pour avoir des actions de prévention, que je vais vous décrire un peu plus tard. Une fois qu'on a cerné ce que la personne est intéressée, sur quoi la personne est intéressée à intervenir pour elle-même, on va dessiner avec elle donc un programme que je dis qu'on va négocier, parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'il va falloir, c'est vraiment comme une négociation, et dire voilà, est-ce que jusqu'où on peut aller dans ce domaine-là, est-ce que vous êtes prêt à perdre 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos, non 10 c'est trop, 5, bon d'accord, on essaie de faire ça sur 2-3 mois, etc. Donc on va se poser des objectifs. Dans ce cas-là, par exemple, on va dire, bon, allez, on est sur 5 kilos dans 3 mois, d'accord. Donc, on se donne comme objectif de perdre 5 kilos en 3 mois, on va poser des indicateurs. Donc, l'indicateur, ça sera moins 5 kilos au mois de fin septembre, et on va proposer un suivi. C'est-à-dire, on va donner les moyens, on va dire, bon, c'est bien joli de faire des recommandations, mais qu'est-ce qu'on en fait, ces recommandations? Je voulais maigrir de 5 kilos, très bien, mais comment je fais? Donc, notre boulot, c'est pas de suivre les personnes dans la mise en œuvre des programmes d'amélioration de la santé, mais c'est de les orienter vers les ressources qui vont leur permettre cette mise en œuvre, c'est-à-dire vers des diététiciens, vers des applications, vers des marchands de balance, vers tous ceux qui sont susceptibles de les aider dans le chemin qu'ils vont entreprendre pour essayer de perdre du poids, et ensuite de leur dire, bon, écoutez, on se revoit dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, pour voir si les objectifs qu'on a fixés et les indicateurs qu'on a posés ont été atteints et si ça a progressé, est-ce qu'il faut changer, est-ce que le programme, est-ce que les ressources qu'on a proposées ne convenaient pas, est-ce que, voilà, donc on réadapte le programme tous les 3 mois ou tous les 6 mois, tous les ans, voilà, en fonction des programmes qui ont été mis en œuvre. Mais notre principe est de dire que les actions de prévention qui ne sont pas ciblées, qui ne sont pas personnalisées et qui ne sont pas suivies ne servent pas à grand-chose, pour ne pas dire qu'elles servent à rien. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que les injonctions, et notamment les injonctions de prévention primaire dont on parlait, et les injonctions de 10 000 pas par jour, c'est bien, mais c'est quand même d'une efficacité et d'une utilité toute relative. Le suivi à distance, le suivi qu'on va faire, on va pas être les opérateurs de la mise en œuvre du programme, mais on va le suivre, comme je vous ai expliqué, donc on va suivre à distance. Les modalités de suivi peuvent être très variables. On peut avoir des suivis par, on envoie par exemple sa tension tous les matins, on enregistre quelque part sur un tableau Excel et on renvoie au médecin. On peut avoir des objets connectés qui vont permettre de suivre, il y a des balances connectées. Pour reprendre notre exemple, par exemple, on peut dire, bon, on se pèse tous les matins et on a une balance connectée qui envoie l'information sur un tableur quelque part que le médecin peut regarder et suivre l'évolution. Enfin, voilà. Donc, le suivi en question peut être basé et va être de plus en plus basé sur des tics, enfin, des objets et des bases de données qui de plus en plus performantes et dont on tire de plus en plus d'informations qui vont permettre des suivis de plus en plus pointus. Bien, donc le paysage étant à peu près esquissé, je vais rentrer maintenant un peu dans le sujet principal finalement, que sont ces medical check-ups.
Jean-Michel, s'il te plaît, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais une question à te poser au sujet de, par exemple, tu as pris l'exemple de perte de poids. Alors, donc, la personne détermine, je veux perdre 5, 10 kilos ou 15 kilos. Et je voudrais savoir quelle est votre action au niveau du conseil de la personne, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une interaction, par exemple, au niveau de l'évaluation des risques. Est-ce que vous leur dites, vous avez avec votre surpoids, vous avez des risques pour si, ça et ça, et donc nous on vous conseillerait ça et ça. Et est-ce qu'il y a une discussion, peut-être qu'elle va réajuster son objectif de 5 à 10 kilos ou de 10 à 15 kilos, par exemple.
Alors, bien sûr, on va, tu as fait raison de le souligner, bien sûr, dans les recommandations, on ne va pas immédiatement se précipiter sur dire, c'était l'étape que j'ai passée un peu vite, qui était ce que j'appelais l'étape de la négociation. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut en effet qu'on explique devant tout facteur de risque qu'on a révélé, qu'on explique, qu'on permette à la personne de mesurer pour elle-même avec d'autres critères en général qui ont été révélés par les questionnaires. Ça peut être les antécédents familiaux, ça peut être la génétique, ça peut être d'autres facteurs de risque associés, ça peut être des pathologies, dont évidemment on va tenir compte pour adapter les conseils, en expliquant qu'effectivement dans les recommandations, quelqu'un qui est obèse mais qui en plus est diabétique, mais qui en plus a une hypertension, mais qui en plus à trois personnes dans son entourage qui sont mortes de je ne sais quoi. Effectivement, on va en tenir compte et expliquer, bien entendu, avant, enfin dans le cadre de négociation, expliquer avant les raisons des conseils qu'on va donner et l'intérêt pour la santé de la personne que ça représente. C'est-à-dire que notre boulot est vraiment d'accompagner le projet des personnes et non pas de leur imposer, comme disait de mise auparavant, de leur imposer une prescription en disant voilà, c'est là qu'il faut faire, c'est là qu'il faut prendre et puis ne discutez pas, mais bien de les accompagner. Cette phase d'information est absolument fondamentale, tu as tout à fait raison, et on tient compte, bien entendu, pas du seul paramètre que j'évoquais dans mon exemple. Pour les bilans, alors, on parle donc de check-ups en anglais, en France, on parle de bilan de santé, qui est un terme que j'aime pas du tout, parce que c'est évidemment impossible de faire le bilan de la santé de quiconque. On ne peut pas définir la santé d'une personne à un temps donné. On peut définir la santé d'un organe, d'une fonction, et encore pas à 100%, mais on peut sûrement pas définir la santé totale d'une personne. Elle peut descendre l'escalier et faire un infarctus en bas, donc ou avoir une embolie qui se prépare quelque part. Le bilan de santé n'est pas juste, on ne ressort pas d'un bilan de santé en disant « je suis tranquille, il n'y a rien, c'est sûr », etc. Non, il peut y avoir des choses cachées qu'on détecte pas. Il peut y avoir un cancer silencieux qui ne s'est pas encore révélé et qu'on n'a pas été capable de trouver. Il peut y avoir plein de choses qui ont échappé parce qu'on n'a pas fait toutes les analyses qui auraient permis de détecter. Enfin bref, donc ceci juste pour dire que notre approche est de dire nous faisons des bilans médicaux et que ces bilans médicaux adressent des organes ou des fonctions, je vais les détailler un petit peu, avec pour objet en gros de dépister des maladies silencieuses ou d'identifier des facteurs de risque. On est donc dans la prévention secondaire telle que j'ai expliqué au début. Et on va voir ce qu'on arrive à mettre au jour. Il est possible qu'il y en ait à côté desquels on passe parce qu'on ne peut pas tout voir et donc on ne peut pas faire un bilan de santé complet. Par contre, quand on dit qu'on va faire un bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, du dépistage des risques de cancer cutané, là on peut aller au bout de ce qu'on propose. On peut effectivement, avec une quasi-certitude, faire un bilan du dépistage des risques de cancer cutané. Donc, je vais vous détailler un peu ce qu'on fait dans le domaine, mais avant, donc, je vais finir de dérouler la manière dont on procède, puisque donc, à l'issue de ces bilans qu'on appelle des bilans médicaux modulaires, parce que du coup, on va les découper en petits modules en fonction de l'organe ou de la fonction que l'on cible. À l'issue de chacun de ces petits modules, on va informer les personnes, les accompagner, leur proposer des suites, les accompagner, etc., les référer vers un réseau d'effecteurs qui pourront les aider à prendre en charge et à mettre en œuvre le programme dont on sera convenu. Et c'est évidemment fort, fort important. Donc, ces bilans médicaux sous forme modulaire, quand on les assemble, entre guillemets, plusieurs modules, ça donne ce qu'il est classique d'appeler un bilan de santé. Dans d'autres circonstances, en additionnant plusieurs modules qui se complètent. Donc, je vais juste vous brosser maintenant un paysage des modules que nous proposons, qui vous donneront une idée un peu plus précise de ce dont je parle, en donnant du contenu. Donc, c'est un peu, je les livre un peu en vrac, tels qu'on les présente à nos clients. On a par exemple un module stress chronique, sur le stress chronique. C'est quoi le but du jeu? C'est d'alerter sur un stress accumulé ou sur un risque de burn-out et de pouvoir conséquemment informer quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait? Ça se fait d'une part par des questionnaires spécialisés qui parfois révèlent une situation par rapport au stress, mais on a mieux que ça puisque nous avons un petit appareil tout à fait intéressant qui permet de mesurer l'équilibre entre la fonction du système sympathique et du système parasympathique, en analysant la cohérence cardiaque par rapport à la respiration. Pour faire très schématique, le système sympathique accélère, dans la respiration, le système sympathique accélère le cœur, et donc à l'inspiration, il y a une accélération du cœur, et le système parasympathique, le système freinateur, le sympathique est plutôt accélérateur, le parasympathique est plutôt freinateur, et donc à l'expiration, c'est le système parasympathique qui prend le relais et qui fait ralentir le cœur. Donc on analyse cette cohérence entre la respiration et le rythme cardiaque, qui est un excellent reflet du niveau de stress, et de manière un peu contre-intuitive en fait. Plus c'est plat, c'est-à-dire moins il y a de différence entre l'action du sympathique et du parasympathique, plus c'est un signe de dépistage de stress accumulé. Donc voilà, ça c'est un petit module, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, mais qui permet de restituer vraiment un état, entre guillemets, de stress chronique à la personne et de lui donner les conseils derrière pour dire, attendez, il faudrait peut-être calmer un peu le jeu, il faudrait faire du yoga, des exercices d'assurance cardiaque, sophrologie, enfin bref, on oriente ensuite vers les manières de gérer son stress et d'aider à gérer son stress.
Ok, Jean-Michel, comme c'est un podcast à destination extra-hexagone et qu'il y a des gens qui écoutent d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, est-ce que tu peux préciser, si tu le sais, comment se procurer cet appareil?
Alors oui, bien sûr, je le sais, mais je le sais chez nous. Je ne sais pas si je connais pas les fournisseurs en dehors de chez nous. Chez nous, il y a deux fournisseurs. Il y en a un qui s'appelle Codesna, l'autre qui s'appelle Pulsacare. Codesna est un peu en difficulté en ce moment, donc je sais pas, ça va peut-être reprendre à la rentrée, mais je peux mieux les ensemble. Par contre, Pulsacare, Pulsacare, comme care, ils ont aussi des appareils, on peut les trouver. Ils travaillent beaucoup avec les sportifs. Ils ont un site, n'importe qui tape sur Pulsacare. Sur un moteur de recherche, et vous trouverez tout ce qu'ils proposent, qui est assez intéressant. Vous verrez, ils ont des analyses assez fines, en fait, du stress, et même un peu plus largement. Deuxième type de module, comment ils appellent, les autres sont plus simples, je vais pas vous les détailler tous autant que ça, mais il y en a un qu'on appelle avec modération pour définir la relation avec la consommation d'alcool et en prévenir les complications. Donc là, c'est fondamentalement de la discussion, bien entendu, donc ça part d'un questionnaire spécialisé qui permet un peu de situer le niveau de risque et le niveau de conscience du risque qu'a la personne. J'en reviens à la question de Yann tout à l'heure. Bien sûr, on va mesurer la tension, l'indice de masse corporelle, la glycémie, etc. Mais surtout, là, orienter et faire prendre conscience des conséquences, du niveau de risque. Est-ce que c'est grave que je boive un whisky tous les soirs? Est-ce que c'est grave que j'en boive 10? Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de précisions qu'on peut donner sur ce sujet et qui sont l'objet de ce module-là. On a un module sur le sommeil, qui était évidemment un sujet pour beaucoup. Donc là, le but du jeu est de dépister les troubles du sommeil, de lutter contre l'épuisement professionnel. Et là aussi, donc, on a un questionnaire spécialisé, on a un test de stress. Et là, c'est aussi beaucoup un travail d'information sur l'hygiène du sommeil, tous les trucs, entre guillemets, qui peuvent aider. Il y a encore des gens qui restent avec leur écran allumé, des bêtises comme ça. Enfin, voilà, tous les petits trucs qu'on peut donner pour aider à gérer son sommeil. On passe à la dermato, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, on a un système avec un petit dermatoscope qui est connecté et qui permet donc d'une part de voir en dermatoscope, ça permet de voir de manière beaucoup plus précise. Il y en a des petits très simples, hein, des grains de beauté. Donc on va faire le tour des grains de beauté de la personne, absolument partout de préférence. Et ensuite, on va en faire, chez nous, ce sont des infirmières qui sont formées à ça, qui le font, et qui ensuite, donc, elles ont appris à reconnaître ce qui est à coup sûr bénin. Et quand il y a un doute sur un grain de beauté, ou que vraiment elles soupçonnent qu'il y a quelque chose de fâcheux, elles le transmettent à notre dermato. Et c'est le dermato derrière qui fait une consultation et qui, avec la personne, qui reprend les images, qui en parle par des antécédents, etc. Et selon le résultat, on a tous les cas de figure. Soit dit, maintenant, finalement, t'es bénin, il n'y a aucun souci, c'est même pas la peine de se voir. Soit dit, oups, là, effectivement, il faut que je vous voie, il faut qu'on fasse une exérèse, une analyse, ça peut être compliqué. Donc, on prend un rendez-vous et on fait une consultation derrière. On a un module sur les vaccinations usuelles pour la remise à jour du calendrier vaccinal. Donc, selon les pays, ben, le calendrier vaccinal varie, mais c'est évidemment quelque chose qui est proposé. Alors, je fais une parenthèse, pardon, pour dire que tous ces modules-là, en fait, nous les proposons au centre, mais on les propose aussi en entreprise, en fait. Et quand je dis entreprise, c'est de manière plus générale dans les collectivités. C'est-à-dire que notre personnel, nos soignants, qu'ils soient médecins ou infirmières, se déplacent dans les entreprises, que ce soit les sièges sociaux, que ce soit les usines, se déplacent pour aller faire sur place ces modules de prévention. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc bien sûr, la vaccination fait partie des choses. On n'a pas, si on demandait aux auditeurs s'ils sont tous à jour de leur vaccination banale, du tétanos, de typhoïde, polio, etc. Je ne suis pas absolument certain que tout le monde sera parfaitement à jour. Donc c'est quelque chose qui est intéressant de donner l'occasion de regarder et de remettre à jour, parce que on le sait, le tétanos en France même est encore une maladie. Je ne parle pas d'autres, enfin une maladie qui existe et qu'on trouve. Je ne parle pas d'autres pays, notamment des pays africains dans lesquels ça reste le tétanos reste une réelle véritable plaie. On a un module sur la forme physique pour évaluer le niveau d'activité physique et la sédentarité, donc là qui est basé sur questionnaires, mesures de l'IMC, la tension artérielle, etc. Et qui là aussi est fondamentalement l'objet de conseils et de prise de conscience de la personne de son niveau de sédentarité et du risque lié à la sédentarité. On a plein de recommandations comme ça, comme les 10 000 pas que j'évoquais tout à l'heure, ou de ne pas rester plus de 2 heures devant un ordinateur sans aller se bouger 5 minutes. Voilà. Mais on n'en prend pas forcément la mesure, et c'est en ayant l'occasion d'en discuter qu'on peut dire, ben, vous avez vu comment ça s'est passé hier, vous avez passé 6 heures sans vous arrêter devant votre écran, et ben ça va pas du tout. Après, ben. On a un petit module de cardio tout simple qui consiste simplement à faire un électro. Donc là, on fait un électrocardiogramme juste pour dépister un trouble du rythme. Ça, c'est ce qu'on appelle la cardiologie de base, c'est le minimum basique. Enfin, c'est intéressant, ça permet de dépister une fibrillation auriculaire, des choses, une arythmie, enfin, voilà, des choses qu'ensuite on peut orienter. Quand il y a un souci, on va pouvoir tout de suite envoyer chez le cardio. On a la même chose en ORL, c'est-à-dire qu'on a un dépistage de troubles auditifs avec là aussi des appareils que nous a conseillé notre ORL qui sont très spécifiques, donc qui permettent de faire sur site et assez rapidement une audiométrie complétée par une otoscopie. On va regarder un peu dans les tympans quelle tête ils ont et une audiométrie pour voir un peu quel est le niveau de, voilà, donc d'écoute. Tout ça fait partie des choses dont on ne va pas s'occuper spontanément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui va dire, bah, tiens, je vais aller voir où j'en suis de mes oreilles, si j'entends encore bien, hein. Mais par contre, quand on peut le faire sur place et quand l'occasion est donnée de le faire, et on dépiste énormément de choses. On a été très étonné de dépister des facteurs de risque, certes, mais aussi des pathologies chez nombre de personnes, et donc de s'apercevoir que ces dépistages proposés sur place étaient vraiment pertinents, utiles et intéressants. Même chose en ophtalmo. En ophtalmo, bon, je pense qu'on n'est pas les seuls en France à avoir un problème de désertification des médicales, et l'ophtalmo est un des plus touchés. Donc, dans les villes, il y a à peu près ce qu'il faut, mais alors, dès qu'on s'éloigne des très grandes mêmes agglomérations, c'est le désert complet. Et donc, tout ce qui est possibilité de dépister comme un glaucome, des mélanes, des dégénérescences maculaires, une rétinopathie diabétique, toutes choses qui ne se manifestent pas, si ce n'est tardivement, et qui laissent les gens aveugles quand on ne les traite pas suffisamment, ben, c'est pas dépisté en amont, simplement parce qu'un rendez-vous d'ophtalmo à 6 mois ou à 1 an, eh ben, on n'y va pas. Et donc, là aussi, apporter cette possibilité de prévention sur place, avec ce qu'on appelle les bilans ophtalmo sur site, est quelque chose de vraiment important. Là, ça peut être fait par des orthoptistes qui envoient les résultats des ophtalmo, qui les analysent et qui restituent les résultats. On a un petit module de dépistage d'un diabète latent. Là aussi, c'est quelque chose qui ne se manifeste pas, qui se manifeste tardivement quand c'est au stade de pathologie. Et quand c'est au stade de pathologie, le diabète a déjà fait beaucoup de dégâts. Et donc, c'est utile, pertinent de le dépister avant qu'il ait le temps de faire des dégâts. Et pour ça, c'est relativement simple. En fait, donc, c'est toujours périmètre abdominal, glycémie ou hémoglobine glycée, qui permettent de voir quel est si il y a un diabète ou pas. Et donc, si on le dépiste, ça nous arrive souvent d'orienter vers un spécialiste en informant les gens et en les prévenant du risque que ça présente. En disant, ben voilà, vous avez un diabète, vous n'en apercevez pas parce que ça ne se manifeste pas cliniquement, mais ça bousille vos artères par derrière, et n'attendez pas qu'elles soient bousillées pour vous en occuper. On a la même chose pour les lipides, un petit module sur le dépistage d'une anomalie lipidique. Et là, on peut faire un bilan. Tout ça se fait sur site avec des petits appareils en point of care ou en bandelette qui permettent de mesurer le cholestérol total, le HDL, LDL, triglycérides, etc. Et bien sûr aussi toujours l'IMC, périmètre abdominal, hein. Et de restituer un résultat de déséquilibre quand c'est le cas, et de donner les conseils. On est vraiment dans le même registre que le diabète. C'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui abîme, et là aussi, les artères, avec des risques de plaques d'athérome, et donc avec tout ce que ça représente de risques subséquents sur le système cardiovasculaire. On a un module de dépistage des substances psychoactives. Bon, ça, c'est plus classique, hein, avec des tests urinaires qui permettent de dépister les substances psychoactives. On a un module psy, là, qui est beaucoup plus délicat, beaucoup plus spécialisé, et qui, lui, vise à dépister des difficultés psychologiques. Quand il y a des gens qui ne se sentent pas très bien, des fois, ça peut être utile qu'ils puissent l'exprimer. Et donc, on démarre aussi là sur un questionnaire très spécialisé. Là, c'est fondamentalement basé sur un entretien avec un psychologue qui va permettre de mettre au jour des difficultés, ou au contraire de dire que, bon, écoutez, c'est pas très grave. Et quand il y a des difficultés, d'orienter, de dire, bah, écoutez, là, vraiment, il faut vous en occuper sérieusement, aller voir un psy, on vous oriente et on vous dit vers où vous dirigez, il y a un risque grave, donc d'orienter en fonction de ce qu'on a trouvé. On a ensuite des modules un peu plus importants, et là qu'on fait surtout chez nous, pas forcément que chez nous, mais surtout chez nous, comme par exemple un module prévention des maladies du cœur et des vaisseaux, pour connaître son pourcentage de risque d'être victime d'un événement cardiaque ou cérébral dans les 10 ans qui suivent. Il y a des scores qui établissent ça. Évidemment, c'est toujours un score, hein. Ça vous donne un pourcentage, ce n'est pas votre résultat spécifique à vous, mais ça permet de dire, bah, écoutez, là, vous êtes dans le percentile 80% de risque, il faudrait quand même peut-être vous en occuper. Et donc, ça, c'est basé sur des mesures de la tension, de l'index corporel, la glycémie, du profil lipidique. On a un module plus important sur le tabac, pour déterminer le niveau de dépendance, la motivation au sevrage, et évaluer le risque de bronchite chronique. et qui là, celui-là est basé sur, là aussi, sur un auto-questionnaire, une spirométrie pour mesurer un peu les volumes et les capacités pulmonaires, et là aussi de pouvoir informer les personnes en mettant en lumière pour eux le niveau de risque dans lequel ils sont et ce qu'on leur conseille de faire pour le suivre. On a un module sur la prévenir le retentissement du surpoids, c'est déjà pas mal évoqué. Pardon. Et on a enfin un module sur le dépistage des cancers, mais là qui là est très franco-français, puisqu'il s'agit de en gros connaître et suivre le parcours de dépistage proposé par Santé publique France, puisqu'il y a des campagnes de, par exemple pour le cancer colorectal ou le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, il y a des campagnes nationales qui permettent de prendre en charge avec des kits de dépistage, avec des explications. Et donc, notre travail là est de, parce que tout ça est des fois un peu compliqué, un peu difficile à aborder, donc de donner les éclairages sur qu'est-ce que vous pouvez dépister, qu'est-ce qu'il est intéressant de dépister en fonction de votre âge, de vos antécédents, de ce que vous êtes. Et là, voilà, fondamentalement, un module d'information. On fait également, bien sûr, on fait, pas nous, parce qu'on n'a pas les moyens là, mais on fait aussi de l'imagerie pour compléter tout ce que je vous ai raconté là, de la biologie, et des examens plus approfondis avec nos spécialistes, mais bon, c'est pas trop le sujet ici. Et donc, quand on combine ces modules, comme je les ai appelés, en faisant, par exemple, module biologie, module visuel, module cardio, module vaccination, etc., on va arriver à faire un bilan de santé assez classique, mais on préfère, nous, donc, comme je vous l'ai expliqué, le définir et le présenter sous forme de module que je viens de vous décrire. Voilà, donc, que vous dire après? Encore peut-être préciser la manière dont on travaille. Quand on travaille dans des collectivités, je dis collectivités parce qu'on parle des entreprises, mais les employeurs, ça peut être des administrations, ça peut être des organisations non gouvernementales. On travaille beaucoup avec des ONG d'intervention extérieure. Ça peut être des organisations internationales. On travaille aussi avec des organisations internationales. Bref, c'est pas que des entreprises, mais c'est des employeurs. Et de plus en plus, les employeurs ont le souci de la santé de leurs employés. Pour diverses raisons, des raisons parfaitement égoïstes quand ils veulent les garder, c'est-à-dire qu'ils disent ben, effectivement, nos employés, si on ne veut pas qu'ils aillent voir ailleurs, si l'herbe n'est pas plus verte, il faut qu'on leur donne des choses. Et donc, s'intéresser et leur proposer des actions de prévention de leur santé est une action très, très positive et très positivement perçue par les employés. Et donc, de plus en plus d'entreprises, et bien sûr, la crise Covid là-dessus a fait monter les scores de manière impressionnante. Et pour les employés, c'est pareil. Il y avait une petite tendance, plus une petite tendance, une forte tendance auparavant à considérer que l'employeur n'avait rien à connaître de la santé, que ce n'était pas son sujet et qu'il ne voulait pas en entendre parler. Mais de plus en plus, au contraire, maintenant, les employés, donc, comme je le disais, la crise Covid est passée par là, les employés aussi disent bah, effectivement, nous, on est tout à fait favorable à ce que l'employeur nous propose des actions de prévention, des actions de santé, comme on a fait pendant le Covid, où effectivement, on proposait de l'isolement, des plexiglas, de distanciation, des masques, du gel hydroalcoolique, du télétravail, etc. Tout ça, c'est de la prévention proposée par l'entreprise. Et ça, c'est très favorable maintenant pour les employés. Notre action donc auprès des entreprises va être de proposer derrière ces bilans individuels, dont je précise quand même tout de suite que les résultats restent strictement confidentiels entre le bilan de la personne qui a eu un bilan modulaire, un module de bilan médical, et la personne qui l'a fait. Jamais aucune information médicale n'est transmise à l'employeur, bien entendu. Ça reste uniquement. Si les personnes veulent le faire, elles sont évidemment dépositaires de leurs informations médicales, mais nous, on ne transmet jamais rien de personnel aux entreprises. Par contre, on leur transmet des statistiques quand on fait une campagne sur quelques centaines ou milliers de personnes, on peut leur remonter des statistiques. Et prendre un exemple un peu bête, mais de dire par exemple dans une usine où il y a plusieurs ateliers, ben tiens, c'est curieux, celui-là on avait 80% de gens qui étaient à un très haut niveau de stress et dans celui-là ils étaient que 20%. Il y a peut-être un petit problème de management que vous pourriez regarder parce que c'est pas normal. Donc voilà, on peut aussi remonter des informations statistiques à l'entreprise de manière à lui permettre d'engager un programme auprès de ses employés, un programme général auprès de ses employés, agissant sur ce qu'ils veulent, que ce soit agir sur le stress, l'alimentation, une meilleure alimentation dans les cantines, etc. Donc, à ce stade-là, nous, on accompagne les entreprises, on les aide à monter ces programmes. Et quand on fait des programmes de cette nature, on intervient en fait d'un bout à l'autre de la chaîne. Je m'explique. Avant de commencer des actions de prévention, si par exemple, tout d'un coup, dans une entreprise, on va avoir un questionnaire en amont et qui va avoir révélé que il y a plein de gens qui sont intéressés par, je reprends mon exemple du dépistage des cancers, dépistage du sommeil, les troubles du sommeil. On va aller faire notre module sur place et on va avoir les packs singuliers, mais avant ou après d'ailleurs, on va faire des webinaires. Et on a comme ça une série de webinaires à peu près sur tous les thèmes que je vous ai évoqués tout à l'heure en décrivant les modules, qui sont des webinaires classiques de, en gros, 40 minutes d'exposé, 20 minutes de questions-réponses. Mais on y ajoute la possibilité pour les participants d'envoyer leurs questions personnelles à l'intervenant qui a fait le webinaire. Parce que dans les séances de questions-réponses, donc c'est public, tout le monde n'a pas forcément envie de poser ses questions perso et très privées en public, et aimerait pourtant bien avoir une réponse personnelle. Donc on laisse la possibilité qu'ils répondent d'une réponse personnelle à des problèmes personnels que les gens voudraient soumettre sur le sujet qui a été évoqué en webinaire. On décline parfois aussi ça en formation plus importante, c'est-à-dire un webinaire d'une heure, ben on va faire une demi-journée, voire une journée de formation sur un thème quelconque que l'entreprise nous souhaite nous voir faire. Voilà. Une fois que cette action est faite, quand l'entreprise dit mais attendez, oui, on a un souci, on aimerait bien mener une action, prenons l'exemple du stress, on aimerait bien mener une action pour tous les collaborateurs sur la gestion du stress, on les accompagne dans la définition de leur programme, dans la mise en œuvre, dans le suivi. Dans le suivi des résultats, de manière à ce qu'effectivement ces programmes soient suivis de résultats et est une utilité démontrée.
Ok, Jean-Michel. Donc, au sujet des entreprises et des employés, quelle est votre action au niveau des expatriés? Quelle est la place de la télémédecine dans votre centre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je voudrais revenir sur les bilans. Parce que les bilans, tu as décrit toute une série, ce qui serait plutôt des sous-modules, puisque en fait, l'intitulé, c'est trois modules. Alors, comment est-ce que ça s'articule en trois modules?
Alors, la première question est plus facile que la seconde. La première question, donc, effectivement, on a une population d'expatriés et de grands voyageurs, et qui, en fait, sont l'essentiel de des personnes à qui on fait des bilans. Donc là, le principe de ces bilans, c'est des employeurs qui nous demandent quelle est l'adéquation entre un état de santé d'une personne qui nous envoie et la mission qui lui est confiée. Donc, si c'est, une jeune personne qui est mandatée pour aller passer 6 mois au fin fond de la RDC pour une mission d'une organisation humanitaire, ça ne va pas être tout à fait la même chose que pour un col blanc qui est envoyé 2 ans à New York et qui va rester là-bas. Mais la problématique est toujours la problématique de quels sont les risques que je cours, moi, employeur, par rapport à la mission que j'ai confiée à mon employé et en fonction de son état de santé. Donc ça, c'est vraiment, si je puis dire, notre spécialité. d'être capable de dire, bah, écoutez, non, votre personne-là qui part à New York, un état cardiaque qui risque fort de décompenser là-bas, et donc ça risque de vous coûter une fortune, vous êtes obligé de le rapatrier, d'arrêter sa mission, etc. Le petit gars qui doit partir au fin fond de la RDC, bah, lui aussi, il a un risque de décompensation psy, et donc on vous conseille vraiment, enfin, voilà, c'est ça l'idée. Donc le plus souvent, en fait, c'est l'inverse de ce que je viens de décrire. Le plus souvent, heureusement, c'est positif, mais il nous arrive souvent d'agiter les drapeaux orange pour dire, attendez, faites vraiment gaffe, ou des explorations complémentaires, ou carrément des drapeaux rouges en disant, ah, écoutez, non, il faut vraiment pas que la personne parte. Et l'avantage de la situation dans laquelle on est, c'est qu'on a des partenaires, donc comme je l'ai dit, en imagerie, en labo derrière. Et que si on détecte quelque chose, ça nous arrive souvent parce qu'on travaille avec des ONG d'urgence, si on détecte quelque chose, je ne sais pas, une masse abdominale, tout d'un coup, pouf, c'est quelqu'un qui doit partir le lendemain, on peut demander tout de suite de faire une échographie, enfin voilà, demander, passer un coup de fil au centre d'imagerie voisin avec lequel on travaille de manière très, très, très étroite et lui demander d'explorer ça en lui expliquant le problème et d'explorer ça pour éviter de laisser partir quelqu'un avec un doute et une interrogation. Pour répondre à ta deuxième question. Donc,
alors, la télémédecine, est-ce que vous utilisez la télémédecine?
Alors, non. Par contre, là, comme je t'ai dit, nous, notre boulot, c'est de référer vers les ressources. Et donc, nous, on fait bien sûr de la téléconsultation. Tous les médecins du centre font de la téléconsultation. Mais on ne fait pas de la télémédecine pour suivre les expatriés. Là, c'est le boulot des compagnies d'assistance. Et on n'enquête pas du tout sur ce domaine-là. Donc, on ne fait pas du tout de... On est amené à faire du suivi. Enfin, je prends un exemple récent, par exemple, quelqu'un qui partait à Dakar et qui avait effectivement chez qui on avait trouvé une tension un peu élevée. Non, dans un premier temps, on lui a dit, comme on savait pas vraiment tout de suite faire comment le référer, on lui a dit, bon, bah, écoutez, voilà, on vous propose un traitement et un suivi, vous nous envoyez tous les jours votre relevé de tension et voir ce qu'on fait. Mais après, on va le référer vers l'hôpital Fall, enfin, vers le cardio local, de Vincent Badiop ou tout ce qu'on peut connaître là-bas, de manière à ce qu'il puisse être suivi localement. Notre boulot, c'est pas de réaliser nous-mêmes ce suivi, c'est vraiment de poser des indicateurs et d'assurer de suivre que ça a été, en gros, que le programme a été mis en œuvre de manière efficace et avec des résultats. Sur les trois modules, oui, effectivement, c'est le type d'intervention. Les trois modules, bah, je dirais que le plus pertinent et le plus intelligent, c'est de piocher dans ces trois modules. C'est-à-dire, c'est de piocher dans les modules, d'en piocher trois dans les modules que je vais exposer. C'est-à-dire que, comme j'expliquais au début, en disant qu'un âne, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, tous les sujets ne vont pas intéresser tout le monde. Donc, c'est pas la peine d'aller faire un module addiction à quelqu'un de l'addiction au tabac, par exemple, à quelqu'un qui dit, j'ai aucune envie d'arrêter de fumer, c'est pas le moment, je suis pas capable. Pas la peine de faire un module alcool à quelqu'un qui dit, écoutez, moi, l'alcool, c'est comme ça que je m'endors, je peux pas faire autrement. Pas la peine de faire un module poids à quelqu'un qui va vous dire, moi, non, je peux pas m'arrêter, je peux pas changer mon régime, c'est impossible. Donc, l'intelligence d'un bilan de santé, je pense, c'est être capable de le personnaliser. Je reviens sur mon introduction sur la médecine 4P. C'est de le personnaliser et de commencer par un questionnaire pour dire qu'est-ce qui vous intéresse, sur quoi vous voulez travailler dans votre prévention et de ne pas adresser 15 domaines. C'est-à-dire que on ne sait pas travailler 15 trucs à la fois. C'est-à-dire que si on dit, on va pas dire en même temps, j'arrête le travail, j'arrête l'alcool, et je vais me faire des... C'est juste pas possible. Donc, si on veut faire une prévention efficace, il faut qu'on cible des domaines précis, motivants pour la personne et dont on peut s'assurer qu'ils vont être suivis. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est pas la peine d'en faire 50. Bon, peut-être des fois, il faudra un peu élargir pour aller explorer plus largement. Il faudra faire un peu de biologie, il faudra rajouter un peu de cardio, enfin d'exploration cardio ECG par exemple, et donc élargir un peu. Mais fondamentalement, voilà, l'idée que je voulais mettre en avant, c'est l'intérêt de ce ciblage, de cette personnalisation, de ce ciblage et de cette nécessité de suivre avec la personne les recommandations qu'on lui a, enfin, qu'elle a accepté et dans lesquelles elle a accepté de s'engager pour voir si effectivement ce n'est pas resté lettre morte.
Oui, donc je pense qu'en fait, quand quelqu'un vient, par exemple, pour une perte de poids ou arrêt du tabac, vos spécialistes les conseillent en disant, attention, il y a un lien entre de risque de cardiovasculaire entre le surpoids, le tabagisme, le diabète, par exemple, l'athérosclérose, l'hypertension, et à ce moment-là, vous faites un package individuellement, cas par cas, c'est ça?
On fait des packages cas par cas, exactement, en fonction des deux. Et pour reprendre ton exemple qui est très bien, quelqu'un qui veut à la fois arrêter de fumer et maigrir, on va dire qu'il ne va pas faire deux en même temps. S'il arrête de fumer, ça va être très difficile de contrôler l'augmentation de poids. Donc, on ne va pas lui mettre un objectif d'arrêter de fumer en même temps que de perdre 5 kilos. On commence par arrêter de fumer, par maîtriser l'augmentation de poids qui risque d'aller avec. Et ensuite, on verra si on peut travailler le poids. Mais tout ça, on l'explique et on parle à personne en disant, attends, on fait une chose après l'autre et c'est pas à peine de tout faire, on va pas y arriver, ça va pas être efficace. Donc, commençons par travailler ce qui est travaillable par vous et avec les moyens qu'on peut vous donner et que vous pouvez vous donner. Et puis, voilà, faisons étape par étape dans tous les domaines sur lesquels on peut intervenir.
Et par exemple, si vous avez quelqu'un en surpoids, vous leur dites que vous avez un risque accru de certains cancers, par exemple. Alors, à ce moment-là, vous faites un bilan, t'aimes pas le mot bilan, mais des possibilités en fonction, effectivement, des antécédents médicaux, de la
etc.,
pour explorer dans ce domaine-là aussi.
Absolument. Et là, effectivement, du coup, on va associer ça avec une recherche des antécédents et des cofacteurs. Des cofacteurs de risque pour mesurer le niveau de risque en question et donc jusqu'à quel point on fait peur à la personne. C'est pas une bonne formulation, mais jusqu'à quel point on lui fait prendre conscience du niveau de risque auquel il s'expose. Et après ça, les personnes font ce qu'elles veulent. Il y en a qui peuvent te dire, écoutez, je m'en fous, ça me vient à mourir à 50 ans, ça ne me dérange pas, d'un cancer colorectal, ça me dérange pas. Bon, ben d'accord, c'est pas la peine de s'occuper du sujet, c'est ce que je veux dire.
Oui. Alors, mais dans tous ces tests-là, toute cette méthode-là que vous employez, elle est universelle. On peut tout ce que vous faites, on peut le faire n'importe où, évidemment.
Absolument. C'est pour ça que je l'ai décrit comme ça. Ça peut être fait en Afrique, en Asie, en Amérique, et c'est d'ailleurs heureusement fait un peu partout. Ce que je voulais vraiment souligner, que je pense que vous l'aurez compris, c'est l'importance de la personnalisation, de la motivation, de ne pas chercher à en faire trop, parce que ça ne sert à rien, on n'arrivera pas à des résultats, et d'assurer un suivi pour qu'on ne s'arrête pas un bilan. On fait un bilan, bon ben voilà monsieur, t'as un bilan, maintenant débrouillez-vous avec ce que je vous ai donné. Non, il faut vraiment derrière assurer un suivi, donner les moyens, donner des recommandations, donner les moyens de mettre en œuvre ces recommandations et ne pas se tromper sur les recommandations en question, ne pas en faire trop ni pas assez, bien sûr, et savoir mesurer comme il faut les recommandations qu'on donne.
Bon, ben moi, je pense que c'est une bonne conclusion pour cette présentation qui était très intéressante et informative.
Merci.
Et je te remercie vivement, Jean-Michel.
Donc, eh bien, presque épuisé mon temps, donc
voilà. Oui, tu as rempli ton heure. Le prochain épisode sera, pour information, avec le professeur Joachim Kapalanga, qui est un pédiatre qui a fait ses études de médecine à Yale University et qui actuellement travaille à Schulich School of Medicine, qui se trouve à London, dans l'Ontario, au Canada. Et le sujet sera Global Health from an African Perspective. Donc, je vous remercie, je remercie tout le monde de nous avoir joints. Je voudrais aussi vous dire que les épisodes des podcasts sont disponibles, ont été enregistrés et sont disponibles sur le site InVivox. Voilà, bonne soirée à tous, bonne journée à tous et comme on dit, à la prochaine fois.
Merci Anne.